divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Michel Leduc et Emmanuel Huysmans-Perrin. Robert Baroucki, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin biochimiste, directeur de recherche à l'INSERM, directeur d'une unité INSERM de toxicologie et de pharmacologie sur le campus des Saint-Pères à Paris. Vos recherches portent sur la toxicologie, un domaine très sensible qui alimente beaucoup de controverses. Vous êtes aussi membre du conseil scientifique de plusieurs agences nationales de sécurité, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Alors, pouvez-vous nous dire, Robert Baroucki, que sont ces agences nationales de sécurité? Quels sont leurs buts? Quels pouvoirs ont-elles? Et très concrètement, ce que vous y faites?
D'accord, donc les agences de sécurité sanitaire ont été créées au siècle passé pour assister les décideurs publics, hein, donc les ministères, le gouvernement, dans la prise de décision concernant tout ce qui peut protéger la santé des citoyens. Et donc, elles ont essentiellement deux grands objectifs. Premièrement, un objectif d'expertise. Donc, elles analysent l'état des connaissances. Elles doivent faire des recommandations dans différents domaines concernant le médicament, concernant l'environnement, l'alimentation et tout ce qui est le milieu aussi du travail. Hein. Donc, elles ont ces objectifs-là de conseil, d'expertise, mais aussi un pouvoir donc de décision, d'autorisation. Donc, par exemple, l'ANSM autorise un certain nombre de médicaments, donne son autorisation. Et de même, l'ANSES, en plus de l'expertise qu'elle fait, il y a aussi un pouvoir d'autorisation sur les phytosanitaires ou le médicament vétérinaire, par exemple.
Mmh. Donc, elles ont un pouvoir réel.
Donc, c'est un pouvoir réel. C'est une grande responsabilité, je dirais, surtout. Et d'autant plus, actuellement, on a besoin tout le temps de savoir enfin, quels sont les risques encourus et de manière objective et scientifique. Et moi, j'y suis au titre des conseils scientifiques.
Hein, alors, voilà.
Donc, ce sont deux agences différentes. Donc, le conseil scientifique est simplement un conseil qui est consulté sur un certain nombre de questions, parce que, par exemple, l'ANSES fait un travail aussi de recherche, finance un peu la recherche, et donc il demande des conseils, il constitue des comités d'experts, et donc il nous demande aussi conseils. Ils présentent leur politique générale, et donc ils attendent des conseils pour voir si cette stratégie est conforme à l'état de la science. Donc c'est simplement de la délibération et des recommandations et du conseil. Il n'y a pas de pouvoir décisionnaire, que ce soit dans une des agences ou dans l'autre, le conseil scientifique.
Être expert ou être au conseil scientifique, c'est la même chose ou pas tellement?
Pas tout à fait. Il y a en plus du conseil scientifique, il y a une vision un peu globale et des recommandations globales. Il y a des comités d'experts spécifiques qui doivent répondre à une question bien précise. Ça peut être les produits chimiques, ça peut être tel ou tel médicament. Et là, c'est vraiment des experts et il y a des vraies recommandations dont souvent l'agence tient compte et qui font la base des décisions de l'agence. Donc c'est un travail, disons, beaucoup plus terrain, si j'ose dire, que le conseil scientifique, qui est un travail plus général.
D'accord. Alors, les dangers de toxicité, c'est évidemment aux toxicologues que je parle, peuvent être dits possibles, probables, avérés ou inexistants. Êtes-vous, à l'intérieur de ces agences, le témoin de pression que rencontreraient ces agences, à la fois de la part de ce qu'on appelle les lobbies venant de compagnies privées qui fabriquent et vendent des produits toxiques avérés ou potentiels, ou pression qui viendrait des organisations militantes, des associations de consommateurs qui s'inquiéteraient, d'autres peut-être, d'autres lobbies possibles. Comment ces pressions, si elles ont lieu, sont-elles prises en compte au sein de ces agences et quelle résistance pouvez-vous leur opposer s'il y en a ?
Écoutez, très sincèrement et à titre personnel, moi, je n'ai jamais ressenti sur ma personne une pression quelconque. Hein. Ces agences ont différents organes et certains organes sont des organes où ils reçoivent ce qu'on appelle les parties prenantes et donc des personnes intéressées par ces différents sujets. Ça peut être évidemment des industriels hein, donc qui sont intéressés et qui vendent ces produits. Ça peut être aussi des ONG qui ont un avis à donner. Donc ils ont des organes où il y a de la délibération, il y a des contacts. Il ne faut absolument pas s'interdire, évidemment, de discuter de ces choses-là. Et elles ne se l'interdisent pas. Elles ont ces types d'organes. Mais moi, je n'ai pas été témoin d'une méchante pression de l'un ou de l'autre directement exercée sur l'agence. Donc je ne peux pas vraiment commenter. Maintenant, c'est vrai que nous sommes dans des sujets souvent difficiles, hein, donc où il y a beaucoup d'incertitudes et on est beaucoup plus souvent dans des nuances de gris que dans du noir et du blanc. Mm-hmm. Et la grande difficulté, c'est de prendre une décision qui penche dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, est-ce que tel produit est toxique ? La question en tant que telle, à la limite, n'est pas très scientifique en fait. La question scientifique derrière, c'est quel est le poids des preuves que j'ai pour affirmer que telle substance est toxique et qu'est-ce qui me manque en fait comme preuve ? Est-ce que c'est pour ça on a toutes ces gradations de possibles, probables, avérées et c'est tout à fait nécessaire. Les sujets sont difficiles. Par exemple, pour certains produits, la toxicité est liée à une exposition à un produit qui d'il y a 20 ans ou 30 ans. Elle n'est pas nécessairement contemporaine à la pathologie qui est induite. Donc, vous êtes exposé il y a 20 ou 30 ans et vous déclarez une
malade,
pathologie. Donc,
oui.
Vous voyez la difficulté d'établir tout ça de manière scientifique. Il y a des règles extrêmement
strictes. Des protocoles.
Des critères très stricts pour établir une causalité. Donc, c'est difficile. On est dans l'incertitude. Malgré l'incertitude, ces agences doivent établir l'incertitude, le degré d'incertitude et malgré tout prendre des décisions de recommandation.
Et ce que vous dites, Robert Barucchi, c'est qu'elles font un travail très sérieux.
Elles font un travail difficile et très sérieux. Et je veux dire, elles sont en permanence à la limite des moyens qu'elles ont pour faire dans de très bonnes conditions ce travail-là. Je veux dire, je suis assez admiratif dans l'ensemble.
Oui, c'est très important. L'Union rationaliste a remis très récemment son prix annuel à Stéphane Aurel, journaliste d'investigation, pour ses travaux dans les archives de Monsanto, le fabricant du glyphosate, le Roundup des agriculteurs, et elle dénonce dans ses deux livres essentiels, Intoxication et le plus récent Lobotomie, les méthodes de cette entreprise de taille mondiale pour contredire les travaux des universitaires en commanditant des études ad hoc faites par d'autres scientifiques. Ces méthodes sont très bien documentées aux États-Unis, notamment pour les effets du tabac. Elles consistent souvent à demander plus de recherches. C'est ce qu'on pourrait appeler, de cette curieuse expression, la science obstruction.
Oui.
Qu'en pensez-vous ?
C'est un vrai, une vraie question de fond et je pense que le travail d'enquête journalistique qui a été fait par Stéphane Aurel est un travail sérieux qu'un scientifique ne peut pas faire. Hein. C'est pas vraiment le travail du scientifique, c'est vraiment le travail d'une véritable journaliste qui fait son enquête et qui interviewe, etc. Nous, on ne sait pas nécessairement faire et on n'est souvent pas très au courant en réalité de ces choses-là. Donc il faut le faire. Alors, mais il y a une vraie question derrière, c'est que au fond, surtout pour le tabac, quand on regarde ce qui s'est passé pour le tabac, ça a été fait de manière assez astucieuse, il faut le reconnaître, par les industriels, parce
oui,
qu'ils se sont pas opposés comme ça de manière franche. Ils ont essayé de détourner l'attention en finançant des travaux scientifiques, d'ailleurs potentiellement de qualité. Certains travaux étaient de qualité, mais dans un autre domaine. Donc ils ont
engagé
ça.
La recherche sur une autre piste.
Voilà, donc un peu voilà.
Une fausse piste.
Pas nécessairement une fausse piste, une autre piste, mais pas nécessairement une fausse. Ça, il y avait un travail sur les virus, sur la génétique qui était sérieux. Hein. C'était pas les gens qui les ont faits ne sont pas de mauvais scientifiques. Hein. Loin de là, mais ça a un peu éloigné les projecteurs de la problématique tabac. Maintenant, faire de la recherche, je pense, est évidemment nécessaire, est toujours nécessaire dans beaucoup de domaines, et n'est pas contradictoire avec l'action publique. Ça, je pense qu'il faut qu'on se convainque. Je veux dire, quand on dit « je ne veux plus qu'on fasse de la recherche, je veux qu'on agisse », je peux entendre cela, mais s'interdire de faire de la recherche maintenant, c'est s'interdire d'agir dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, l'un n'est pas contradictoire avec l'autre.
Alors
ça,
là,
je pense
qu'à l'Union rationaliste, nous sommes profondément d'accord avec vous là-dessus. Ça n'est pas la question. La question, c'est précisément de demander plus de recherches hein, ce qui est le cas ou la stratégie ou la tactique de certaines entreprises pour ne pas statuer sur un cadre de dangerosité.
Ça, exactement ce que je disais, c'est-à-dire que le fait de devoir faire plus de recherches n'empêche pas de prendre une décision.
Des décisions.
Parce que nous savons que ça va prendre du temps. Nous savons que ça ne va pas être immédiat, même si on démarre les recherches. Et donc, il y a quand même, quand les arguments sont suffisants, parce que le principe de précaution, on parle de principe de précaution, on n'a pas
bien
tous
sûr.
Les arguments, mais est-ce qu'on en a suffisamment? Donc ça reste un jugement d'un comité d'experts. Est-ce qu'on a suffisamment d'arguments pour agir, même si on n'a pas tous les arguments? Et le principe de précaution, pour moi, est un principe fondé sur la science. Vraiment très fondé sur la science, parce qu'il y a une plus grande difficulté scientifique à statuer dans une situation d'incertitude que quand les choses sont extrêmement claires et définitives. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre, le poids des preuves. Et donc c'est une démarche réellement scientifique qu'on demande. Même si c'est un principe de décision publique, mais il se fonde sur de la science et de la bonne science qui peut dire certaines choses et ne pas pouvoir affirmer d'autres.
Nous avons déjà consacré une émission à l'Union Rationaliste sur cette difficile question du principe de précaution. Et je renvoie les auditeurs de France Culture à nos écrits là-dessus. Alors, le chercheur, quand il devient expert, prend un rôle nouveau. Ses liens d'intérêt peuvent entraîner des conflits d'intérêts dans son travail, à l'intérieur d'un groupe d'experts. Ses liens sont régulièrement dénoncés dans les médias, lors de controverses sur des sujets sensibles, comme dans le domaine des médicaments. Les agences de sécurité et aussi celles de financement de la recherche au niveau européen demandent de plus en plus souvent aux chercheurs de déclarer leurs liens d'intérêt. Pouvez-vous nous éclairer sur le type de liens qui sont questionnés, forts, faibles, personnels, professionnels? Et ne risque-t-on pas finalement de manquer de connaissances indispensables si l'on pousse trop loin l'exclusion des experts les plus qualifiés? Est-ce qu'il n'y a pas une dérive dans ces questions?
Les liens d'intérêt, ils existent, il est tout à fait normal de les déclarer. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que il faut qu'on sache quand quelqu'un s'exprime, dans quel cadre il s'exprime. Donc ça, c'est clair. Et ils sont de différents niveaux. Hein. Bien sûr, les liens sont extrêmement divers. Vous avez le lien le plus direct, c'est-à-dire une personne, un chercheur, est consultant pour un industriel. Il est payé, souvent très très bien payé. Et donc, il reçoit directement au niveau personnel de l'argent de cet industriel. Là, le lien est très fort. C'est extrêmement difficile de demander à cette personne d'émettre un avis qui a du poids neutre sur cet industriel.
Et objectif.
Et ensuite, vous avez toute une série de gradations. Nous, en tant que chercheurs du public, on nous encourage aussi à participer à la valorisation économique de nos travaux. Donc, on nous dit, hein, donc, essayez de collaborer avec le privé parce que c'est l'économie de votre pays. Vous avez une certaine... Donc, établir des collaborations avec un industriel pour travailler sur un sujet, ça c'est tout à fait normal. C'est un lien, mais c'est pas le même niveau que de recevoir d'un point de vue personnel de l'argent. Là, c'est votre laboratoire qui peut bénéficier de financement. Et puis ensuite, tout dépend du niveau de financement. Si l'essentiel des financements est souvent public et il y a une part qui vient du privé. Donc ça, il faut le déclarer et il faut être mis de côté quand on parle de cet industriel. Et puis ensuite, il y a toute une série d'autres liens. Moi, personnellement, je fais une déclaration de liens d'intérêt, comme tout le monde, et c'est nécessaire et c'est obligatoire. Mais l'essentiel de ma déclaration, c'est ma participation à des congrès, parce que pratiquement tous les congrès, scientifiques ou médicaux, sont financés d'une manière ou d'une autre par du privé, que je ne connais pas d'ailleurs. La plupart du temps, je ne le connais pas. Mais si on m'invite à un congrès et qu'on me rembourse le train et l'hôtel, on ne me donne rien personnellement, on me rembourse juste le train. Quelque part, je me sens obligé de le déclarer et je le déclare. Donc ça fait toute une liste très longue. Je ne vois pas en quoi ça fait un lien très fort, mais là c'est un lien, disons, faible. Mais autant que ce soit déclaré. Moi je suis pour une transparence la plus grande possible, mais je suis aussi pour une proportionnalité. On ne peut pas mettre au même niveau tous les liens d'intérêt.
Et donc il faut avoir un jugement à la fois précis et aiguisé, sans monter trop vite au créneau.
Bien sûr, et d'ailleurs les agences dans les groupes d'experts, ils font ça. C'est-à-dire, ils étudient chaque lien d'intérêt et voient quand est-ce qu'ils ne peuvent plus écouter tel expert et quand est-ce qu'il peut rester dans la salle, par exemple.
Donc il y a des liens d'intérêt faibles.
Il y a des liens d'intérêt faibles et il y en a de bien forts.
Et donc, peut-être qu'une des pistes que nous lançons là, c'est de pouvoir dire aussi aux auditeurs de France Culture que dénoncer trop vite les liens d'intérêt et stigmatiser, c'est une démarche trop rapide, arbitraire.
Tout est dans le détail et la difficulté est dans le détail. Et donc, il y a des liens d'intérêt forts qu'il faut dénoncer et il y a d'autres beaucoup plus faibles qu'on peut laisser passer.
Vous avez une position écoutée au niveau de l'État et de la communauté européenne où tous les spécialistes de toxicologie se reconnaissent et se rencontrent. Pouvez-vous nous donner votre impression sur la façon dont se prennent les décisions éminemment politiques qui évoluent constamment et sont scrutées par les médias ? Le sens du bien commun est-il toujours à l'œuvre ? L'équilibre des différentes parties prenantes que nous avons évoquées est-il bien respecté ? Pouvez-vous donner un commentaire personnel sur ces questions à partir de votre point de vue de rationaliste, puisque vous êtes membre de l'Union rationaliste de longue date ?
Je pense que nous sommes des experts scientifiques et nous faisons une évaluation scientifique des choses et nous proposons notre évaluation et nos recommandations aux décideurs. Un décideur doit écouter, j'espère que la science influe la décision, j'espère quand même beaucoup qu'on n'écoute plus, pas uniquement les espèces de croyances, et j'ai beaucoup lutté contre ça, mais qu'on étudie les choses d'un point de vue scientifique. Donc voilà, nous faisons notre analyse et nous l'envoyons au décideur. Le décideur prend en compte ça, mais il ne prend pas en compte uniquement ça. On sait bien qu'il y a d'autres critères. Il y a des critères sociaux, il y a des critères économiques, il y a des menaces de chômage, par exemple. Il y a des choses comme ça qu'un décideur doit prendre en compte. L'aspect scientifique doit être au premier plan, bien sûr, mais il n'est pas le seul. Et on peut comprendre qu'un décideur essaye de tenir compte d'autres aspects avant de finaliser sa décision. Cela dit, il faut malgré tout que l'aspect scientifique est clair et net et je dirais a le moins d'incertitudes possible, il est quand même recommandé que ce soit dans ce sens-là que les décisions soient prises.
C'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Robert Baroucki, je vous remercie. Je signale que Robert Baroucki est intervenu dans le numéro 204 de Raison Présente intitulé « La culture de l'ignorance », revue que vous pouvez retrouver sur le site de Cairn. Je remercie Rafik Zénine et Jean Frédérix qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.